Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Chaussy. Je suis Ramona de la classe 3e C et aujourd'hui nous allons discuter des nouvelles du 21e siècle. Mais avant, je vous présente mes camarades. Camille.
Bonjour.
Julia.
Bonjour.
Salomé.
Bonjour.
Lucille.
Bonjour.
Et puis Clémence.
Bonjour.
Surtout pas.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle est votre nouvelle préférée?
Moi, personnellement, ma nouvelle préférée, c'est celle des trois petits cochons. C'est l'histoire de trois hommes ayant hérité de leur père charcutier qui vont vivre chacun de leur vie, chacun de leur côté leur vie. Il y en a un qui va vivre de sa passion la moto, un autre qui va essayer de faire sa vie avec une femme et trouver un bon métier, et un autre qui va essayer d'être écologique et faire sa maison. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce je trouve qu'elle est ironique et il y a beaucoup d'humour dedans.
Ouais, c'est vrai.
Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai réussi à percevoir ça. Et justement, la construction de la nouvelle, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ouais. Alors moi, c'est pas ma nouvelle préférée. En tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça... Enfin, c'est l'une des nouvelles qui est la plus comique, ironique, etc. Je l'ai beaucoup aimé aussi.
Mais pourquoi vous la trouvez ironique et comique?
Parce que, en fait, les phénomènes qui sont à l'intérieur, déjà l'attachement à la vraie histoire, le fait qu'elle ressemble beaucoup à la vraie histoire. Donc,
quelle vraie histoire?
Trois petits cochons. Donc, les trois petits cochons, la vraie histoire avec les trois personnages qui sont des trois petits cochons.
Ouais, le conte populaire,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de. De similitudes à la vraie à la nouvelle comme le fait qu'ils soient trois frères qu'ils ont chacun une passion,
ils sont tous différents,
le nom aussi.
C'est ça aussi,
le caractère différent,
exactement.
Donc c'est cette dimension parodique qui vous a plu, en fait?
Oui,
vous avez trouvé ça amusant?
Oui, surtout une phrase que j'ai trouvé ironique vers la fin, c'est quand celui qui est écologique il dit: qu'est-ce qui vous a décidé à me rendre visite? En fin de compte, on voit que malgré que les autres l'aient mis à l'écart, ils sont quand même bien contents de venir chez lui pour être à l'abri.
Ouais. Donc ils se moquent un peu d'eux.
Oui, du coup. Mais ils les acceptent quand même.
Moi, j'ai beaucoup aimé quand Victor et Hervé se moquaient de Ludovic, qui voulait construire une maison, mais une maison écologique, et ils le prenaient complètement pour vraiment un imbécile, car à la fin de cette nouvelle, on pouvait voir que c'était la maison écologique de Ludovic qui a tenu totalement le coup face à la tempête par rapport à ses deux frères. Et donc du coup, j'ai bien aimé parce qu'il ne faut pas juger une personne car il n'a pas forcément la même idée que nous par rapport à ce qu'on voudrait faire plus tard comme projet.
Moi, personnellement, elle était bien cette histoire, mais ma préférée, c'était plus la digue. Parce que même si cette histoire, elle était triste, j'ai trouvé qu'elle parlait de choses réelles. Et en fait, ça m'a fait rappeler que nous, en fait, on a beaucoup de chance de vivre en France et d'avoir ces choses-là. Donc du coup, la digue, c'est l'histoire de Khaleda, je sais pas si je prononce bien ça.
Khaleda.
Qui a deux filles, et le problème, c'est qu'elle est en manque d'argent. Du coup, elle est partie au Bangladesh. Elle était censée rentrer l'année d'après.
Alors attends,
elle est partie en Arabie Saoudite.
Elle vient du Bangladesh, mais elle vient en Arabie Saoudite pour trouver un métier.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Pour travailler.
Non, t'as dit l'inverse.
Non, excusez-moi.
Pas de problème.
Et le problème, c'est qu'il y a eu des problèmes là-bas, ce qui a fait qu'elle a dû rester plus de 5 ans là-bas.
Le problème, c'est à cause du réchauffement climatique, l'eau est montée là où elle vivait de base, et du coup son neveu s'est noyé. Et du coup, elle a été contrainte, elle a fait le choix d'envoyer l'argent qu'elle économisait de base pour acheter une boutique et retourner vivre là-bas, pour au final surélever la maison et pouvoir protéger ses filles en quelque sorte.
Je trouve ça tellement triste que la tournure de l'histoire fait que... En fait, c'est un peu ironique le fait qu'en fait elle parte de chez elle pour aller
en Arabie Saoudite,
alors que
c'est un des pays qui justement contribue à
la pollution,
et au dérèglement climatique au Bangladesh. Donc c'est triste, en fait.
Ouais.
C'est un cercle vicieux.
Oui, exactement.
Moi justement, j'ai pas aimé cette nouvelle parce que c'était un peu, vraiment trop triste. Ça changera jamais, quoi. Elle travaillera toujours et elle donnera l'argent.
Elle reverra plus jamais ses filles, en fait.
Oui, voilà, c'est ça.
C'était très triste, mais vu que ça semblait réel et que c'était bien détaillé, j'ai trouvé ça comme si on était dedans.
Oui, mais en fait, le fait que tu aimes ou pas une nouvelle, c'est pas forcément lié à au fait qu'elle soit triste ou pas. Enfin, je veux dire, je vais prendre un exemple canonique. Vous avez peut-être tous vu Titanic et je suis sûre que vous avez adoré. Pourtant, c'est pas très joyeux. Hein. Donc, tu vois, c'est pas un argument, je pense, qu'on peut utiliser pour dire qu'on a aimé ou pas. Dès lors que la nouvelle vous touche, elle parvient à vous toucher et à vous émouvoir, moi, c'est je pense que là, ça peut justifier que vous ayez aimé. Ça veut pas dire que vous avez aimé le malheur qui arrive au personnage, mais ça veut dire que vous avez aimé la façon dont l'auteur arrive à nous toucher avec une histoire qui est racontée, qui est pas vraie du tout, mais qui donne l'impression qu'elle est vraie tellement elle nous touche. Tu vois, c'est ça qu'il faut avoir comme distance peut-être quand on est lecteur. Ouais, c'est vrai.
Ensuite, Salomé, c'est quoi ta nouvelle préférée ?
Moi, ma nouvelle préférée, c'était aussi La Digue. Mais sinon, il y en a une que j'aimais un peu moins, c'est Grum. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui vit au Cameroun et son père, il est contrôleur forestier. Donc il va l'aider à faire des relevés, sauf qu'il se rend compte que son père ne respecte pas vraiment les relevés quoi. Il y a plus d'arbres qui ont été coupés et récupérés. Et du coup, il le fait comprendre à son père, sauf que son père le refuse. Et son père lui explique que c'est parce que pour subvenir aux besoins de sa famille, il fait ça. Enfin, en soi, ils ont les moyens, mais c'est plus pour...
des gadgets.
Les suppléments, en quelque sorte. Genre, parce qu'en soi, pour vivre, on n'a pas forcément besoin d'une moto, mais c'est quand même utile, en quelque sorte.
Il lui dit, est-ce que tu crois vraiment qu'avec le salaire que j'ai, on pourrait avoir tout ça, pour s'offrir tout ça ? Et à la fin, il se rend compte qu'il voulait toujours une moto. Et il culpabilise un petit peu de la vouloir toujours, mais en même temps, il la veut encore. Et du coup, il culpabilise.
C'est justement ce que j'aime pas chez Richard, c'est que il culpabilise, mais c'est pas pour autant qu'il se dit « Oui, non, au final, j'abandonne la moto.
Ouais, »
Il est un peu égoïste et il a un comportement enfantin. Enfin, il a quand même 17 ans. S'il veut une moto, il se débrouille pour l'avoir, mais il laisse pas son père faire de la corruption.
Pardon, excuse-moi de te couper. Mais aussi, moi, ce que j'ai vraiment détesté dans l'histoire, c'est ma nouvelle que je n'aime le moins, c'est le fait que le père fasse culpabiliser son enfant alors que c'est lui le fautif.
Ça m'énerve.
Oui, en fait, il essaie de se trouver des arguments, enfin des prétextes, des excuses, alors que en fait c'est pas bien ce qu'il a fait. D'ailleurs, j'ai mené mon enquête, ça s'appelle la dissonance cognitive, il me semble, et en fait c'est le fait de faire quelque chose de mal et pour pas culpabiliser, en fait on invente des excuses et des prétextes. Par exemple, il y a des personnes qui vont le faire avec la religion, il y a des personnes qui ont tué au nom de la religion et qui disent oui parce que il y a ceci qui dit dans ma religion ça, alors que en vrai c'est faux, c'est totalement faux, c'est juste pour pas culpabiliser.
Oui, c'est comme si en fait il lui dit oui mais c'est ta faute, c'est toi qui veux ça, moi j'ai jamais voulu ça, alors que c'est lui qui a pris la décision de le faire.
Mais
parce que en soi il est grand, mais c'est pas vraiment,
mais après enfin il a quand même 17 ans, donc si enfin on peut pas dire que le père, ce qu'il fait, c'est bien de rejeter la faute sur son fils, mais c'est pas pour autant que son fils il dit oui la moto c'est bon, j'abandonne. Il continue d'être dans l'idée de oui, ma moto, j'en ai quand même besoin, donc s'il veut une moto, il a qu'à travailler ou je sais pas, trouver une alternative.
Il est assez matérialiste, alors qu'il sait très bien, on a vu dans l'histoire, qu'il y avait un village qui dépendait d'une forêt qui allait être coupée justement à cause de la corruption de son père. Mais il abandonne toujours pas, alors que il sait très bien qu'il y a des gens qui pourront mourir.
Exactement.
Ouais, mais le père, il aurait pu prévenir directement. Le fils, au lieu de faire ça, il aurait pu lui dire j'ai pas les moyens, essaye de te débrouiller de ton côté. Moi, de mon côté, je peux rien faire.
Au lieu de faire de la corruption. C'est quand même la faute de Richard, en fait. Enfin,
les deux sont fautifs.
Oui. Ouais, mais enfin, il aurait quand même pas dû agir comme ça. Il a qu'à.
Ah, chacun a sa partie.
De responsabilité.
Ensuite, Clémence, d'ailleurs, c'est quoi ta nouvelle préférée ou celle que. Enfin, ta nouvelle préférée.
Moi, j'ai beaucoup aimé Fly Mamadou.
Ouais, c'est vrai.
Elle est bien.
C'est l'histoire de Mamadou. C'est un jeune Congolais de 17 ans arrivé illégalement en France. Il est doué en foot et il rêve de devenir joueur international. Il va prendre un vol en South. D'un avion direct de la France.
Ça veut dire clandestinement, en fait. Il n'achète pas son billet.
Okay.
Il va avec les bagages. Il se planque.
Et il se fait recruter dans une équipe de foot où il deviendra par la suite un bon joueur. Et un soir, ils vont fêter sa gloire et malheureusement, il y a une bagarre qui éclate et les policiers l'arrêtent, et ils le surprennent que c'est en fait un sans-papiers. Et franchement, j'ai vraiment aimé cette nouvelle car c'est Mamadou en fait qui vient vivre en France pour vivre de sa passion et ça prouve vraiment que c'est pas juste une simple passion pour le foot mais c'est vraiment une très très grande passion qu'il a envers ce sport.
Moi cette histoire je l'ai beaucoup aimée mais aussi ce qui m'a énervée en fait c'est que dans l'histoire, c'est un sans-papier et quand le coach il l'a appris, au lieu de l'aider à faire des vrais papiers et tout ça, il lui a fait des faux papiers, il a pensé qu'à ses intérêts alors qu'il savait qu'il aurait pu avoir des problèmes. Mais il s'en fichait parce que lui il avait besoin d'un bon joueur.
Il l'a manipulé en fait.
Comme s'il n'était pas important.
En plus, Mamadou, c'est moi, l'histoire elle m'a vraiment touchée parce qu'en fait, ça me rappelle mes parents qui sont venus en France et eux aussi, ils ont connu des galères quand ils sont venus, etc. Du coup, c'est pour ça qu'elle m'a énormément touchée. Mais aussi, le fait que c'est vraiment injuste, en fait, personne ne l'a aidé alors que lui, il aide, il a aidé les gens de son club, etc. Et il a quasiment rien fait et il se voit punir à leur place.
Il a respecté, il s'est tenu à carreau, il a rien fait de mal et malgré ça, tout ce qu'on retient, c'est le fait qu'il soit arrivé illégalement alors qu'il a fait plein de bonnes choses.
Il a essayé de s'intégrer.
Et on retient sa seule erreur.
En fait, cette nouvelle dénonce la situation des personnes qui sont sans papier.
Ouais, c'est vrai.
Il a rien fait en soirée, il buvait pas d'alcool et tout ça, il gardait son verre de coca. C'est même pas lui qui a frappé, il disait que je voulais pas de problème, mais au final c'est lui qui a pris les conséquences.
Et personne n'est venu l'aider, bien sûr, ouais. On l'a laissé dans sa galère. Et...
Oui,
chacun pour soi en fait.
Voilà, exactement. Et les gens sont vraiment méchants.
Ouais, en tout cas c'est ce que veut nous dire l'auteur.
C'est ça. Ensuite, Lucille.
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé La Maison Verte. Du coup, c'est l'histoire d'une famille qui veut avoir la maison la plus écologique possible. Sauf que cette famille habite à côté d'une centrale nucléaire. Et le père, il travaille aussi. Donc, j'ai bien aimé cette nouvelle, en fait, parce que j'ai apprécié que l'auteur se moque d'eux. Enfin, il les prend un peu pour des imbéciles, et c'est un peu le cas. Ils sont extrêmement naïfs. Ils habitent à côté d'une centrale nucléaire et ils essayent de faire tout le nécessaire pour avoir la maison la plus écologique, alors que ça n'a aucun intérêt, vu qu'ils habitent à côté d'une centrale nucléaire.
Oui, mais après, peut-être que c'est toujours dans l'esprit de... Disons, c'est de la naïveté, mais aussi du déni. C'est-à-dire que, en fait, peut-être qu'ils habitent là depuis qu'ils sont nés, etc., donc les parents, et qu'ils se disent que la centrale nucléaire, en fait, c'est rien. Peut-être qu'ils ont grandi avec ça, qu'ils se disent que c'est pas grave, tout simplement.
L'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est dit bien, justement, donc c'est peut-être
parce que ça pollue moins, mais en soi, c'est plus dangereux.
C'est nocif.
Après, je me demandais aussi si le fils n'était pas au courant non plus, parce que à Honcourt, ils ont des cours de physique nucléaire. Et donc, en cours de physique nucléaire, ce serait plus logique qu'ils apprennent les dangers,
les
etc.
Dangers, oui.
Donc après, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, mais ils sont peut-être aussi dans le déni.
Dans le déni, dans la naïveté.
Parce que certes, ils vont faire des économies d'argent, mais au final, ils vont peut-être aussi vivre moins longtemps.
Oui, en fait, tout ce qu'ils font, c'est en vain, quoi.
Ça n'a pas d'utilité.
Oui. Ils le font, mais au final, ils vont quand même...
Ça va pas grand-chose.
Peut-être qu'après, c'est... Même s'ils connaissent les conséquences, mais ce que l'auteur ne fait pas trop... On dirait qu'ils comprennent pas les conséquences. Ils veulent quand même le faire, malgré tout. Peut-être que c'est juste un vouloir et pas un devoir.
Bah, c'est une famille qui est détruite par la centrale nucléaire, enfin par le nucléaire, quoi.
Et du coup, moi, personnellement, cette histoire, c'est pas ma préférée, mais je l'ai trouvée très, très bien parce qu'elle est très courte. Mais on comprend très bien ce qu'il veut dire. En plus, il y a un petit peu d'humour. Par exemple, dans une phrase, il y a marqué qu'en gros, qu'il fallait cueillir une cueillette. Et il a précisé qu'il fallait la porter à deux.
Et
aussi, il dit que quand son père y rentre, il sentit.
Il est comme émerveillé, alors qu'au final, c'est dangereux.
Oui, parce que ça veut dire quoi, en fait, qu'il sentit
qu'il est... il est en contact direct avec les
radiox.
Du coup, ça rejoint ce que dit Salomé sur le cours de physique nucléaire et tout ça. Il devrait être enseigné et savoir.
Mais l'auteur prend bien soin de ne pas nous le dire pour justement donner du crédit à son propos, quoi. Puisque lui, visiblement, ce qu'il a envie de nous dire, c'est que le nucléaire, c'est pas bon, c'est pas compatible avec l'écologie. Donc, c'est pas écologique.
Oui.
Donc, c'est pas une énergie propre. Donc, il faut l'arrêter. En fait, c'est ce qu'on comprend.
Ouais.
Ensuite, moi, ma nouvelle préférée, c'est Racisme aveugle, parce que c'est un peu ce que moi, ce que je vais vivre un petit peu. Parce que, en tant que, du coup, je suis africaine et arabe, du coup, je ressens un petit peu ce que Baptiste, donc le personnage, ressent. Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire un résumé de l'histoire? Lucille, vas-y.
Du coup, c'est Baptiste, donc c'est un jeune homme qui cherche, qui veut un travail. Et donc, il va passer un entretien d'embauche pour devenir vendeur. Et l'entretien d'embauche va très bien se passer, sauf qu'il y a un employé à la fin de l'entretien, quand Baptiste sera parti, qui va expliquer au patron que Baptiste est noir. Et donc, suite à ça, le patron lui avait dit que oui, il était pris, que tout s'était bien passé. Et suite à ça, Baptiste, il va apprendre qu'au final, il n'est pas pris. Et donc, du coup, c'est assez injuste et triste. Et c'est ridicule, en fait.
C'est aussi de l'hypocrisie. Parce
sachant que le patron est aveugle, donc oui. Il n'a pas pu...
Et en plus il a dit dans un passage que vous me rappelez moi quand j'étais jeune. Ça veut dire qu'il se reconnaissait en lui.
Il s'identifie à lui.
C'est ça, exactement.
Sauf que quand il a appris qu'il était noir, tout de suite, ça a changé son point de vue.
D'où le racisme aveugle.
Exactement. En plus, le pire dans tout ça, c'est le secrétaire qui lui, vraiment, enfin, le secrétaire Hubert, vraiment, c'est le pire parce que lui, il l'a vu. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il était là, etc. Mais pourtant, il n'a pas... c'est à cause de lui tout ça en fait.
Sinon il aurait été pris.
Ouais,
il avait toutes les qualités requises, il était même parfait. Hein.
Quand on entendait, c'était en fait un portrait élogieux. En fait, on ne voyait aucun défaut. Tout était fait pour qu'on apprécie et pour qu'on se dise il va être pris, il a toutes les qualités pour, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas pris.
Et au final, chute.
C'est pas parce qu'on a une couleur différente de peau de celle des autres qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes droits.
Ça rejoint un peu l'histoire de Mamadou. Il fait tout, encore une fois,
pour être
correctement. Exactement. Et au final, encore une fois, il se...
Tout ça à cause des gens qui pensent que la différence, c'est une barrière et non une qualité. Mm-hmm. Alors, merci d'avoir écouté. On va vous dire au revoir.
Au revoir.
Et bonne soirée.